Bienvenue dans le débat. Imaginez un peu la scène. Le matin du 3 janvier 1931, Florencio Armodio Arozemena se réveille en tant que président du Panama. Et quelques heures plus tard, son gouvernement n'existe plus. Il s'est totalement évaporé.
C'est un effondrement d'une rapidité assez incroyable, oui.
Exactement. Et la question centrale qui nous réunit aujourd'hui, c'est de comprendre comment un pouvoir en apparence si stable a pu s'écrouler en une seule matinée. Est-ce que cette chute fulgurante est en fait la conséquence directe des résultats officiels de 1928, une élection complètement verrouillée, ou plutôt le résultat inévitable du crash boursier de 1929?
Et de l'influence américaine, il ne faut pas l'oublier.
Tout à fait. De mon côté, je défends la thèse du péché originel. Un pouvoir construit sans véritable légitimité populaire et il est condamné à mort à la première crise venue.
D'accord, mais moi je vois les choses avec une focale, disons, beaucoup plus large. Le séisme économique mondial et l'émergence d'un nouveau nationalisme farouche contre la domination étrangère, c'est ça le vrai moteur. L'élection contestée de 1928, ce n'était qu'un symptôme.
Un symptôme massif alors, hein? Parce que si on se penche sur le contexte de ce scrutin, le mécanisme de 1928 est fascinant. Le président sortant, Rodolfo Seri, a purement et simplement confisqué l'élection.
Oui, en jouant sur les institutions.
Voilà. Il s'assure mathématiquement le contrôle de 4 des 7 sièges du Conseil électoral, donc les résultats officiels étaient déjà écrits. L'opposition, qui était menée par George Eboid, a été neutralisée avant même qu'un seul citoyen ne glisse un bulletin dans l'urne.
Ce qui fait d'Arozemena, qui était d'ailleurs un ingénieur sans base politique, un président de papier, en quelque sorte.
Totalement. C'est comme nommer un PDG contre la volonté expresse de tous les employés. Tant que les profits explosent, personne ne dit rien. Mais au premier retard de salaire, il passe par la fenêtre.
Président de papier, oui, je vous l'apporte volontiers. Mais attention, Seri n'a absolument rien inventé en 1928. Cette confiscation du pouvoir par une poignée de familles influentes, c'était l'ADN même du système panaméen depuis l'indépendance de 1903.
Les dirigeants libéraux et conservateurs se passaient le relais, c'est vrai.
Exactement, dans un cercle très fermé. Donc l'effondrement de 1931 s'explique d'abord par la violence inouïe de la Grande Dépression. Regardez Action Communale, le groupe derrière le coup d'État. Ce n'était pas juste des idéalistes frustrés par les résultats d'une élection.
Non, c'était une nouvelle génération.
Voilà, des professionnels de la classe moyenne, des médecins, des ingénieurs, qui étaient complètement exclus du partage du pouvoir par cette élite. Avec la misère qui s'installe en 1929, leur exclusion devenait insupportable et la révolte inévitable.
C'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que si ce système oligarchique fonctionnait si bien depuis 1903, pourquoi est-il soudainement craqué de l'intérieur? En voulant à tout prix barrer la route à son ex-allié Belisario Porras, Seri a mené une guerre d'ego qui a fracturé le Parti libéral en deux.
Une scission historique, oui.
Et en détruisant cette unité, juste pour imposer son pion, il a tout simplement détruit le bouclier politique de son propre gouvernement.
Sauf que là, vous oubliez un détail géopolitique massif, un détail qui englobe tout le reste. Le traité de 1903. Il concédait aux États-Unis la souveraineté sur la zone du canal.
Avec le fameux droit d'intervention.
Exactement, un droit constitutionnel d'intervention pour maintenir l'ordre public. La souveraineté panaméenne est née sous tutelle. Action Communale ne ciblait pas qu'une simple fraude interne, il rejetait une domination étrangère devenue étouffante. Le crash de 1929 a rendu cette dépendance économique totalement indéfendable aux yeux du public.
Attendez, vous dites que la géopolitique a balayé le système, mais en quoi le traité de 1903 empêchait concrètement Arozemena de gérer la crise économique de 1929 face à sa propre rue?
En fait, parce que la survie même de l'oligarchie reposait sur cette ombrelle américaine et sur la rente du canal. Quand le crash a tari les ressources mondiales, cette dépendance a été perçue comme une véritable trahison nationale.
Ah, je vois où vous voulez en venir.
Face à des caisses vides, aucune légitimité purement locale n'aurait pu sauver un régime perçu comme le relais docile de Washington. Arozemena a chuté parce qu'il incarnait un ordre rendu obsolète par l'effondrement mondial, pas juste parce que ses bulletins de vote étaient frauduleux.
Justement, parlons-en de ces caisses vides. C'est exactement là qu'intervient le concept fondamental de capital politique. Quand un gouvernement repose uniquement sur des manœuvres institutionnelles comme le contrôle d'un conseil électoral, il n'a aucune véritable réserve de confiance.
C'est sûr que la confiance n'était pas au rendez-vous.
Or, pour demander des sacrifices à sa population pendant une dépression économique, un dirigeant a un besoin vital de ce capital. capitale. Le matin du 3 janvier 1931, le conseil qui avait fabriqué les résultats officiels n'était plus là pour le défendre face à la colère de la rue.
Bon, nous sommes au moins d'accord sur un point. La séquence 1928-1931 marque une rupture définitive. Elle fissure le monopole des élites traditionnelles au profit de nouveaux acteurs nationalistes. Mais je reste convaincue que face à l'ouragan de 1929, même le président le plus légitimement élu aurait vu son édifice s'effondrer sous le poids de la tutelle étrangère.
Et c'est une réflexion qui, au final, dépasse largement le cadre du Panama des années 30. Un pouvoir construit sur des arrangements institutionnels plutôt que sur un soutien populaire, peut-il accumuler la force nécessaire pour survivre à un choc mondial? Ou finit-il toujours par s'évaporer à la première tempête? Nous laisserons nos auditeurs tirer leurs propres conclusions. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat.